Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver pour un Mondial Sport qui va faire la part belle à l'Afrique et à ses multiples facettes ce soir. L'Afrique du football côté court avec la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Bonnes affaires notamment pour les Congolais RDC de Vita Club et les Ivoiriens de l'ASEC qui se relancent dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Côté obscur, c'est le sort réservé à des joueurs ivoiriens rêvant d'Europe mais coincés depuis plusieurs mois en Éthiopie, victimes d'intermédiaires peu scrupuleux. Vincent Dublange a rencontré ses laissés-pour-compte partagés entre détermination à poursuivre leur but et la résignation. L'Afrique du basket avec la quatrième journée de l'Africa Basketball League. La compétition fait étape au Bénin ce week-end. La résilience par la pratique du karaté. C'est le credo de Laurence Fischer, ancienne triple championne du monde de la spécialité, qui enfile toujours son kimono pour la cause des femmes victimes de viols, notamment en RDC, où son association Fight for Dignity œuvre pour la guérison des corps et des âmes traumatisée. Elle nous racontera son combat et sa méthode. Enfin, le rugby africain a un nouveau patron, le Tunisien Khaled Babou, élu le week-end dernier au Maroc. Vous l'entendrez détailler les chantiers et les priorités de son mandat pour développer la pratique, la popularité mais aussi la lisibilité des compétitions de ballon ovale à travers le continent. Allez, le football en Afrique pour commencer. Bonsoir Thomas Saint-Léger.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
La suite de la cinquième journée des phases de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Hier, le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, s'est assuré la première place de sa poule et donc un billet pour les quarts de finale. Aujourd'hui, chamboule tout dans les groupes A et D. Les cartes sont totalement rebattues.
Et on va faire ça dans l'ordre, Christophe, avec d'abord, c'est logique, le groupe A. L'ASEC d'Abidjan reste en course après sa belle victoire 2-0 sur le vainqueur 2017, le Wydad Casablanca, doublé du Burkinabé Ahmed Simba Touré. 2 buts et 1 intervention dans Mondial Sport. Bref, une belle soirée pour lui.
Ah ben oui, ça fait plaisir, mais je pense que c'est pas moi seul qui joue, c'est toute une équipe. Donc je dis merci d'avoir mes collègues et cette victoire est dédiée à toute la famille Mimosa.
Et la SEC s'est transcendée en deuxième période. D'où avez-vous tiré ces ressources qui vous permettent de l'emporter au final 2-0?
C'est un moral collectif. On s'est dit tout ça à la mi-temps qu'on ne veut pas perdre le match. Donc du coup, on avait déjà une idée arrêtée en tête. Un match nul, je pense qu'on était déjà éliminé. Une défaite pareille, mais une victoire, on était encore dans la course. On s'est directement mis dans la tête, il ne fallait pas qu'on perde ce match, quel que soit la situation, fallait qu'on gagne.
Mission accomplie donc pour le club d'Abidjan et son attaquant burkinabé Ahmed Touré au micro d'Emmanuel Kofi. Emmanuel, qui a réussi quand même à nous trouver un Ivoirien malheureux ce soir, Cheikh Camara, pas de chance. Il jouait dans le camp d'en face, l'attaquant du Wydad, évidemment déçu du résultat de ce soir.
Au début du match, on a essayé de tout donner. Et voilà, on a poussé, on a fait une très bonne entame de match. Après, la SEC s'est ressaisie et la SEC, c'est une grande équipe. Ils ont eu plus d'envie que nous en deuxième période et voilà, c'est ce qui a fait la différence. On pense qu'on a perdu ce match et on n'est pas bien dans la tête. On va vite se ressaisir et entamer le match prochain pour se qualifier, Inch'Allah.
La SEC était meilleure aujourd'hui?
Ouais, bien sûr, ils ont eu plus d'envie que nous. Ils ont eu plus d'envie que nous et voilà, nous après, on n'était pas favorisés avec le temps, tout ça. Et après, c'est le foot, le temps, c'est pour toutes les deux équipes. Voilà, nous, de se préparer mentalement aussi à cette genre de match. Quand on est en Afrique, voilà, on va beaucoup tourner sur ce genre d'environnement et voilà, je pense qu'on va tout faire pour s'adapter. Il y a un dernier match, on va tout faire pour se qualifier.
Voilà, évidemment, tout le monde veut se qualifier dans ce groupe et en même temps, tout le monde peut ou presque se qualifier. C'est très bien parti pour les Mamelodi Sundowns, premier avec 10 points après un succès facile sur Lobby Stars 3-0. Suivent avec 7 points le Wydad et la SEC. Avec 4 points, Lobby Stars est dernier. Lobby Stars, ce sera d'ailleurs l'adversaire des Mimos d'Abidjan la semaine prochaine et ce sera au Nigeria.
Voilà, donc rien n'est fait dans le groupe A. Suspense aussi total dans la poule D.
C'est encore plus serré, Christophe. Avant la dernière journée, rendez-vous compte, les 4 équipes se tiennent en 2 points. En tête avec 8 points, nous avons la JS Saoura, vainqueur à domicile en Algérie de Simba Sports, 2-0. Viennent ensuite égalité avec 7 points, l'AS Vita Club de Kinshasa et Al Ahly, le club congolais, tombeur tout à l'heure d'ailleurs du géant égyptien, 1-0, but libérateur du jeune Tuisila Kisinda en fin de rencontre. On écoute l'entraîneur du club de Kinshasa, Florent Ibenge. Il est évidemment très fier pour son équipe mais aussi pour le continent. Vous allez comprendre, c'est au micro de Kaboulo Moana Kaboulo.
C'était un match de haut niveau. On jouait l'équipe la plus titrée d'Afrique. C'est pas pour rien, on l'a vu aujourd'hui. C'est une équipe très forte. Et on a sorti un très très gros match. Je crois que c'est le genre de match qui font plaisir à l'Afrique. Si on a des matchs comme ça en Afrique, je crois que notre football ne sera pas très loin des tout meilleurs. Aujourd'hui, on a vu deux belles équipes, sans mauvais coups. Vraiment, il n'y a pas eu de mauvais coups, avec beaucoup de respect. On n'a pensé qu'à jouer. Et c'était techniquement très fort du côté d'Al Ahly. Nous, on était un peu plus courageux. Et ça a donné une partie, je pense, agréable à regarder.
Une performance de haut niveau à rééditer la semaine prochaine. Donc pour Florent Ibenge et ses troupes, il faudra faire un bon résultat en Tanzanie sur le terrain de Simba Sports. Et puis sortir la calculette en fonction du score de l'autre match entre Al Ahly et les Mamelodi Sundowns. Et le meilleur endroit du monde pour suivre le verdict de cette phase de groupe, je vous le donne en mille, Christophe Diamzian, ce sera votre poste de radio branché sur
RFI, bien sûr, mais aussi un autre bon endroit pour revoir tous les résultats de cette Ligue des Champions, c'est le site internet de RFI, africfoot.rfi.fr. On retournera en Afrique dans un instant. On va faire d'abord un détour par l'Europe pour la quintessence des journées des championnats européens. Honneur à la Première Ligue et à son toujours leader, Manchester City, vainqueur tout à l'heure à domicile de Watford, 3-1, qui restera en tête du classement, quel que soit le résultat de Liverpool demain face à Burnley. Mauvaise opération en revanche pour Tottenham, battu 2-1 par le mal classé Southampton. Conséquence, la troisième place des Spurs est désormais lorgnée par Manchester United en déplacement ce dimanche à Arsenal, match sur lequel on reviendra en détail dans l'émission de demain avec notre correspondant Tom Williams. Les Gunners, vous le savez, en difficulté jeudi à Rennes en Ligue Europa contre les Red Devils en 7e ciel, après avoir humilié véritablement le PSG en Ligue des Champions mercredi. Les Parisiens d'ailleurs au repos ce week-end. Leur déplacement à Nantes pour le compte de la 28e journée a été reporté. Ça leur permettra déjà au moins de ne pas avoir à affronter tout de suite l'énorme colère de leurs supporters exprimée hier via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. En attendant de revoir les joueurs de Thomas Tuchel sur une pelouse, eh bien Lyon, dernier représentant français pour l'instant en Ligue des Champions, a concédé un nul de partout à Strasbourg après avoir pourtant mené 2-0. Mais l'OL a connu un passage à vide fatal de 2 minutes qui a suffi aux Alsaciens pour revenir à la marque. Pas vraiment le scénario idéal pour se mettre en confiance avant l'immense défi qu'attend l'OL mercredi, tenter d'écarter le FC Barcelone dans son antre lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain Lucas Touzard, interrogé par Radio France, enrage après ces 2 points gâchés à la Méno.
Ah oui, c'est clairement un coup d'arrêt. Je pense qu'on avait fait des bonnes choses depuis ce match raté à Monaco. Et puis voilà, ce soir on retombe dans nos travers tout simplement. Il va falloir se remobiliser, voilà, discuter je pense entre nous. Je pense qu'on en a besoin parce qu'il y a des choses qu'on a vues ce soir qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà, il faudra se poser les bonnes questions pour aller avec la meilleure des confiances possibles à Barcelone.
Barcelone où l'OL ira en plus sans son défenseur brésilien Marcelo, blessé et sorti au bout d'un quart d'heure de jeu. Sachez que le Barça, lui, n'a pas eu trop de mal à se préparer à ce match en battant le Rayo Vallecano, mal classé 3-1, but catalan signé Piqué, Lionel Messi sur penalty et Suarez. Ce 8e de finale retour sera évidemment à suivre sur RFI mercredi à partir de 20h, temps universel. Et puis en Bundesliga, les joueurs du Bayern Munich tout sourire après avoir fait coup double lors de la 25e journée. Carton des Bavarois sur Wolfsburg 6-0. Et ce score fleuve leur permet de chipper la tête du classement à la différence de but au Borussia Dortmund, vainqueur de Stuttgart 3-1. Quand on parle de football, on évoque principalement, vous savez, donc les grands championnats, les vitrines que sont les compétitions continentales de clubs en Europe ou en Afrique. Mais ce soir, on parle aussi de l'envers du décor avec une autre histoire bien plus triste, Thomas, le destin de plusieurs jeunes footballeurs ivoiriens à qui on avait promis le rêve européen et qui se retrouvent aujourd'hui bloqués en Éthiopie.
Ils seraient en tout une vingtaine arrivés d'Abidjan en plusieurs vagues entre février et septembre 2018. Un homme se présentant comme agent ou coach les a convaincus de tenter l'aventure. Il leur avait d'abord parlé de la Géorgie avant de se rabattre sur l'Éthiopie, faute d'avoir obtenu des visas pour le pays européen. Et là, c'est la douche froide. Ces jeunes Ivoiriens n'ont en fait jamais trouvé de club. Aujourd'hui, ils vivent dans des conditions très difficiles. Certains veulent continuer coûte que coûte. D'autres préféreraient rentrer au pays. Vincent Dublange a rencontré ces derniers. Un reportage réalisé en collaboration avec Emmanuel Koffi à Abidjan.
Ils sont trois dans le jardin de ce centre d'accueil d'une ONG éthiopienne. Ils attendent. Ils sont arrivés en septembre dernier par la voie des airs. Ils ont déboursé plusieurs centaines de milliers de francs CFA et même jusqu'à 1 million pour venir.
On a entendu parler de l'Éthiopie, qu'il y a du bon football, il y a des moyens ici, tout. Donc nous sommes rentrés en contact avec M. Alain, c'est grâce à lui que nous sommes arrivés ici.
Grâce ou plutôt à cause de lui. À l'arrivée, il retrouve d'autres joueurs qui végètent depuis des mois dans la capitale éthiopienne. Pour une partie d'entre eux, l'argent économisé s'épuise, ils sont expulsés de leur hôtel.
On peut dire qu'on logeait dans la rue. Quand la nuit arrivait, on se baladait jusqu'au petit matin. Et on mendiait même dans les rues d'Addis. On mendiait des gens pour nous donner du pain, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir même de l'eau, même pour se laver, c'était vraiment difficile. On mendiait. C'est une femme qui nous a aidé, qui nous a donné un petit coin, comme un petit magasin, pour pouvoir dormir là-bas, parce que le temps ici n'est pas favorable.
Des Éthiopiens les aident, des Ivoiriens aussi. Selon une source, une solution pour le retour est même trouvée à un moment. Leurs visas sont dépassés, les pénalités se montent à au moins 60 000 $ pour la vingtaine de joueurs. Mais selon cette source, le gouvernement ivoirien est prêt à faire le nécessaire. Mais voilà, une lettre est envoyée à Abidjan. Sam Etiassier, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football.
Une dame qui se dit représentante des parents de ces joueurs-là, qui par lettre nous confirme que ces joueurs-là se portent très bien, qu'ils vivent bien en Éthiopie, qu'ils jouent dans des clubs. Nous avons pris acte, nous avons bouclé le dossier.
Quant à l'agent, il ne figure pas dans la base de données de la FIF. Mais il arrive à persuader les joueurs comme celui-ci qui a 19 ans.
Le mercato était fini.
Le marché des transferts, quoi.
Ouais, était déjà bouclé. Voilà, maintenant ils m'ont dit non, que la nouvelle saison, viens ici, ils vont avoir besoin des jeunes joueurs et y a beaucoup de clubs.
Début février, ils sont allés voir l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU. Une solution provisoire a été trouvée. Ils sont tous trois logés dans ce foyer. Ils mangent 3 fois par jour et peuvent dormir sur un vrai lit.
Voilà, en vérité, donc on sollicite l'État ivoirien, voilà, pour qu'il nous aide. Nous sommes des Ivoiriens. Voilà, nous on veut rentrer.
D'après leur témoignage, le consul ivoirien à Addis leur aurait expliqué que le président Ouattara avait dit qu'il s'agissait d'une affaire individuelle. Les autorités ivoiriennes n'ont pas répondu à nos demandes. Et les autres footballeurs, ceux qui disent vouloir continuer l'aventure, non plus. Emmanuel Kofi, Abidjan, Vincent Dublanche, Addis Abeba, RFI.
Et on essaiera bien sûr de vous donner des nouvelles de cette affaire et surtout de ces joueurs ivoiriens grâce à Vincent Dublanche et Emmanuel Kofi.
On passe au basket à présent, toujours en Afrique. La grande compétition continentale, vous le savez, s'appelle désormais l'Africa Basket League. Et hier, à Cotonou, Thomas, s'est ouvert la quatrième fenêtre de cette compétition. Alors, il y a déjà eu des matchs dans le groupe A, le groupe C et le groupe D. On va dire que c'est logique. Maintenant, c'est le groupe B.
Bien, bravo.
Formidable,
bravo, hein. Christophe.
Et, logique toute personnelle. Hein.
Et pour rester dans la logique, puisqu'hier, c'était la première journée, aujourd'hui, on jouait la deuxième de ce groupe.
C'est limpide. C'est très simple, le football et le basket. Le sport en général.
Les sports de ballon, finalement. Et nous avons, en tout cas, déjà un qualifié pour la phase finale. Le top 8 dans ce groupe B. Il s'agit sans surprise d'un des favoris de la compétition. L'ES Rades, après l'élan sportif de Porto Novo hier, les Tunisiens ont dominé aujourd'hui Defenders, un club du Nigeria. Score final 96-80. Mission accomplie pour l'entraîneur adjoint de cette équipe, Rassem Marzougi. Il est au micro de Félix Soundé. PPIP.
Deux victoires, mais dans des situations difficiles. La température et tout, on a essayé de gérer tout le groupe. Avec les blessures qu'on a, on a joué seulement avec 10 joueurs. On a pris le score à chaque fois de 10 points. On a changé un peu de défense. On a joué bien, à part la réussite. Surtout en troisième carton et quatrième carton, c'était très bien au niveau 3 points.
Le plus dur est passé. Vous êtes déjà qualifié. Hein?
Oui, on est déjà qualifié. C'est vrai, mais on doit gagner le troisième match. Tu sais que l'Étoile sportive d'Arades l'année dernière, c'était en finale. Elle a perdu le final. Donc on doit se préparer avec le troisième match. On doit gagner tous les matchs. Comme ça, ça sera une préparation pour le un quart final aller-retour.
Voilà le perfectionniste et ambitieux Rassem Marzougi. Pour lui et pour l'ES Rades, on le comprend, le plus important est à venir.
Quant aux autres équipes de la poule, Thomas, elles se contenteraient déjà amplement du deuxième ticket pour les quarts de finale.
Et elles sont deux pour une place, elles s'affrontent demain. Defenders, donc club du Nigeria, et l'élan sportif de Porto Novo, une victoire chacun pour l'instant. À chaque fois contre BC Terreur de Kinshasa. Le club congolais battu hier par les Nigérians, battu de nouveau aujourd'hui par les Béninois à l'issue d'un match à rebondissement, mano à mano, scénario à déconseiller au cardiaque, et finalement l'élan s'impose 80-74 avec une performance XXL du capitaine Romario Akpashi. 30 points, c'est le record dans cette compétition pour l'instant. Romario Akpashi, vous avez pu l'écouter ce matin dans les journaux de RFI. Alors aujourd'hui, place à l'entraîneur Bastou Taïrou. Il est avec l'incontournable FSP, Félix Soundé Pépéripé.
Vraiment, ce match a été un match avec beaucoup d'émotions pour nous. Au départ, on a bien commencé le match. Au deuxième quart-temps, mes gars ont baissé un peu du bras. Ça a permis à la RDC de revenir un peu au score et même de nous dépasser. Mais à la mi-temps, j'ai donné le conseil à mes joueurs et qui ont suivi et qui a donné le résultat maintenant.
Le plus dur reste à venir.
Oui, la qualification se joue. Déjà, on a un pas, mais la qualification réellement se joue demain contre Nigeria, qui a une victoire aussi, qui va chercher la deuxième victoire pour la qualification.
Les deux équipes se connaissent.
On se connaît, on a joué déjà pendant les phases éliminatoires. Ça n'a pas été une petite affaire. Mais je connais très bien, on connaît très bien l'équipe. Et puis, on va jouer pour faire tout possible pour nous qualifier. Je compte sur la force de mes gars, la rapidité, la mobilité de mes gars et le jeu collectif que nous avons.
Vous l'avez compris, mobilisation générale du côté de l'élan sportif avant ce match décisif demain après-midi. Grosse ambiance à prévoir dans les travées du hall des sports de Cotonou au bord du parquet.
Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on y revienne demain dans Mondial Sport.
Avec bien
un
vu.
Avec un petit peu de chance.
Toujours la logique finalement.
Toujours la logique et avec notre correspondant Félix Soundé Pépéripé. On ne le répétera jamais assez, le sport dans sa dimension sociétale est sans doute la meilleure courroie de transmission des vertus de l'éducation, du partage et aussi de la solidarité envers les autres. Nourris à ces principes tout au long de leur carrière, bon nombre d'athlètes retraités continuent ensuite de les appliquer, notamment à l'intention de ceux et celles qui ont connu dans leur vie le malheur ou la douleur. C'est le cas de Laurence Fischer, triple championne du monde française de karaté. Elle est engagée depuis plusieurs années déjà dans le combat pour la reconstruction psychologique de femmes victimes de violences sexuelles ou conjugales. Elle a fondé il y a 2 ans l'association Fight for Dignity, une structure née de ses premiers contacts sur le terrain avec cette cruelle réalité en Afghanistan et surtout en RDC. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Laurence Fischer nous a raconté comment lui était venue l'idée de s'impliquer dans cette très noble cause.
Ça a commencé après ma première expérience avec Plein International en 2005. J'étais encore athlète et dans le cadre de ma formation à l'ESSEC, j'ai passé un mois à Kaboul pour voir en quoi consistait un programme avec une ONG à l'international. Et ça a été une expérience déterminante quant au choix spécifique de la condition des femmes dans mon engagement. Et il se trouve que j'ai fait la rencontre du docteur Mukwege dans le cadre du Forum mondial des femmes francophones en 2013, qui a témoigné de son travail auprès des femmes de son pays, où le viol là est utilisé comme arme de guerre. Et donc cet échange m'a fait prendre conscience aussi de tout le background que j'avais de l'expérience activiste d'éducation par le sport, où je me suis dit je vais aller en RDC, je vais pérenniser tout ce que j'ai fait, je vais le mettre au service de ces femmes en recrutant un enseignant franco-abbé, congolais, pour que l'activité soit régulière auprès de ces femmes extrêmement vulnérable, puisque j'ai commencé à travailler avec les femmes en convalescence, donc elles ont entre 12 et 18 ans, elles ont l'enfant issu du viol, ou elles ont le sida, ou elles ont l'opération chirurgicale a mal fonctionné, puisqu'en fait elles sont perforées au niveau des parois, donc elles sont incontinentes, parois, vagin, rectum. Et le docteur a été très innovant, en 2008 il a mis en place la maison d'Orcas, donc cette cellule de convalescence où elles ont accès au médical, elles ont accès au psychologue, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes, à de la musicothérapie. Et moi je suis arrivée avec le karaté et le football.
L'idée de départ, c'est de, pour ces femmes, de se réapproprier leur corps, pas simplement travailler sur les souffrances psychologiques qu'elles ont pu endurer.
En fait, la réappropriation du corps passe par le fait de le reconnecter au mental, de le voir non plus comme la source de souffrance qu'il a été, mais aussi comme un moyen de résilience, de mieux-être, et donc de faire cet aller-retour entre le psychologique et le corps. Comment ? simplement en mettant le corps en mouvement, en les valorisant dans leur pratique, en leur faisant prendre conscience de ce qu'elles sont, de ce qu'elles arrivent à faire avec lui, en travaillant beaucoup sur la respiration, en travaillant beaucoup sur les muscles périnéaux, et puis dans la spécificité du karaté, c'est faire un coup de poing, faire un kiai, pousser un cri, donc faire sortir l'émotion différemment. Et puis aussi, ça permet, le karaté ou même le foot permet d'échanger entre elles. Et consciente de cette solution extrêmement positive, il faut qu'on en sache plus sur l'état de stress post-traumatique. En ayant une meilleure connaissance du psychologique, on va peut-être arriver à être plus efficace sur la pratique du karaté.
Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes congolaises, de vos enseignements ?
Déjà, elles aiment ce qu'elles font. Ça, c'est important. C'est un moment aussi où elles oublient le traumatisme. Elles sont moins en colère, où elles arrivent à identifier la colère. Et du coup, elles ont des réactions à l'autre beaucoup moins agressives. Et l'avantage aussi, c'est que les techniques qu'on travaille, elles les mémorisent. Et que si, à un moment donné, elles regardent dans le rétroviseur, hop, elles font ce qu'on a, on travaille les katas. Donc elles ont appris un kata et elles enchaînent ces mouvements. Évidemment, basé énormément sur la respiration, sur la mémorisation des techniques. Et ça les ramène un petit peu à l'instant présent et à quelque chose de positif.
Aujourd'hui, vous avez évidemment de nouveaux projets que vous aimeriez développer et vous en passez par une campagne de financement participatif. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ?
Oui, on a lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule parce qu'il y a urgence d'abord dans l'accompagnement des femmes et aussi parce que ça fonctionne. On apporte vraiment une solution et puis aussi parce qu'on a lancé la recherche action pour mesurer l'impact de la pratique et mettre en place la méthodologie. On part sur 2 ans et même on a déjà fait une phase exploratoire là, toute cette année. Il faut que on amène de la qualité, on a besoin de comprendre, d'apprendre par où ça passe chez ces femmes pour que la pratique du karaté, et on l'espère aussi à un moment donné d'autres disciplines, soit efficace au moment où ces femmes s'accordent ce temps pour aller mieux. La campagne de crowdfunding nous permettra aussi de faire la formation de formatrices, de les rémunérer pour les amener à enseigner, les amener sur des sites sécurisés, holistiques, là où les soins, l'accompagnement est global aussi. Et puis, pareil, en RDC aussi. Il faut accompagner les survivantes qui veulent enseigner dans au Kivu, enfin à Bukavu, dans leur village ou à Goma. Donc oui, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de soutien pour accompagner ces formatrices, ces futures formatrices.
Laurence Fischer, fondatrice donc de Fight for Dignity, qui retournera, sachez-le d'ailleurs, en RDC début mai à Goma et à Bukavu, et qui intervient également depuis 1 an à la Maison des Femmes de Saint-Denis dans la banlieue parisienne. L'association espère récolter 15 000 euros sur cette campagne de financement participatif prévue pour durer 1 mois et demi. C'est pour l'instant bien parti puisque les dons sont pour l'instant de 6 700 euros. Si vous souhaitez, si vous pouvez aider cette association, eh bien n'hésitez pas à aller dans quelques minutes sur la page Facebook Mondial Sport RFI. Vous y trouverez le lien vers la plateforme pour faire un don donc à cette association. Une séquence rugby dans Mondial Sport. Thomas, après le long règne du Marocain Abdelaziz Boukja en poste depuis 2002, la Confédération africaine, désormais baptisée Rugby Afrique, vient de changer de tête.
Et ce nouveau visage, c'est celui de Khaled Babou, un Tunisien, ancien dirigeant de l'Espérance de Tunis, ancien président également de sa Fédération nationale de rugby. C'est un passionné, bien sûr. Pratiquant également dans ses années universitaires, bref, un homme qui maîtrise a priori le sujet et qui veut placer le ballon ovale au centre du jeu, des jeux, des pelouses, d'écoles ou d'universités, vous l'avez compris, ce mandat est placé sous le signe de la jeunesse. David Kalfa a décroché son téléphone pour avoir des précisions. Première question, quelles sont les priorités de Khaled Babou et son équipe ?
Ma priorité, c'est que tous les jeunes africains et africaines touchent un ballon de rugby. Le plus important, c'est n'est pas l'élite. Il faut qu'elle existe, l'élite. Mais c'est les jeunes africains et africaines. Et qu'on ait dans 10 ans des équipes de jeunes africains et africaines qui soient capables d'être compétitifs au niveau mondial. On investit beaucoup d'argent sur l'élite, mais elle n'est pas compétitive. Elle n'arrive pas à accéder au dernier carré. Donc moi, je préfère avoir des jeunes qui dans 10 ans pourront concurrencer l'Allemagne, la Roumanie, le Canada, Hong Kong. Et à ce moment-là, World Rugby regardera l'Afrique en disant, bon, il faudrait peut-être mettre plus de moyens en Afrique ou donner plus de place pour l'Afrique pour jouer en Coupe du Monde.
On sait que le rugby a connu une croissance importante en Afrique ces dernières années. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il devienne le sport collectif numéro 3, voire numéro 2 derrière le football sur le continent ?
Alors tout d'abord, il faut se rapprocher beaucoup des pouvoirs publics pour l'infrastructure. Deuxièmement, il faut qu'on ait une politique globale en essayant de faire du lycée, de l'universitaire, du féminine et avoir des politiques de développement transfrontalières. Parce que moi, je pense qu'il est très important en Afrique de ne pas déplacer énormément parce que les coûts de transport sont énormes, mais faire beaucoup de transfrontaliers. Donc du transfrontalier régional et continental. Ça doit se faire à trois niveaux. Donc le maillage, moi le mot maillage me plaît beaucoup, il faut faire du maillage du rugby en Afrique. Il faut qu'il y ait un maillage assez fin entre les différents pays.
Vous avez évoqué la Coupe du Monde et le nombre de places attribuées à l'Afrique. L'Afrique en a deux actuellement. Est-ce que vous allez vous battre pour obtenir une troisième place garantie pour le continent pour les prochaines Coupes du Monde?
Je ne me battrai pas sur la Coupe du Monde à 15 seniors, mais je me battrai pour les U20. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une équipe nationale qui va aller en Coupe du Monde senior, telle que celle qui va jouer au Japon, nécessite énormément de moyens pour la préparation. J'estime entre 3 et 4 millions d'euros. Aucune fédération en Afrique n'a ces moyens-là. Donc moi, je préfère investir cet argent-là dans les fédérations au niveau des U20. Et là, on pourra avoir des résultats par rapport, par exemple, à l'Algérie, au Nigeria, au Cameroun, au Kenya, Zimbabwe, Tunisie, Maroc. Mais il est très difficile pour qu'une fédération africaine ait des moyens importants pour aujourd'hui aller en Coupe du Monde. On le voit d'ailleurs, comme le Kenya au dernier repêchage, a été lourdement battu. Mais dans 10 ans, si on a fait tout cet effort au niveau des humains, dans 10 ans, on sera capable. On n'est pas encore, à mon avis, mature pour ça, ou prêt pour cela.
Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 est séparée en 3 divisions, la bronze, la silver et la gold cup. Est-ce que vous envisagez d'organiser une seule phase finale, comme on peut en voir dans notre sport collectif?
Tout à fait, c'est dans le programme, mais c'est un projet qui a été initié depuis un certain nombre d'années, donc nous sommes en train de passer par plusieurs étapes. C'est vrai que l'étape ultime serait d'avoir une Coupe d'Afrique unifiée maintenant. La Coupe du Monde dure 45 jours, donc si nous sommes sur un format de 45 jours, il est difficile d'une manière ultime de pouvoir faire une Coupe d'Afrique de 45 jours, sachant que nos joueurs sont des amateurs, ce sont des joueurs qui ne sont pas professionnels et donc ont des restrictions par rapport à leur travail. Donc c'est très difficile de faire une durée de 45 jours. Donc il faut véritablement bien étudier le format.
Vous avez déjà un petit peu réfléchi à la question, ce serait une compétition avec combien d'équipes? 12, 16, 24 équipes hein?
Si nous prenons donc tout l'ensemble des équipes qui évoluent directement. Mais c'est très difficile à mettre en place pour l'instant. Donc elle doit se jouer à plusieurs niveaux. C'est assez compliqué. Vous comprenez pourquoi 45 jours? Parce que comme elle se joue actuellement au niveau de la Coupe du Monde, c'est assez difficile de faire sur le même format pendant 45 jours en Afrique.
Khaled Babou, le président de la Confédération africaine de rugby, avec donc David Kalfa.
On enchaîne avec le rugby féminin. Petit résultat du 15 de France qui a largement dominé l'Irlande tout à l'heure, 47 à 17 à Dublin, dans le tournoi des destinations. Demain, ce sera les messieurs Irlande-France, 15h, temps universel avec Cédric De Oliveira. En cyclisme, très jolie victoire pour le français Julien Lafilippe dans les Strade Bianche, autrement dit les routes blanches, une course en Italie de 184 km en Toscane précisément. Pour sa première participation, le coureur de la Quick Step s'est imposé devant le Danois Jakob Fuglsang et c'est une belle satisfaction pour lui.
Oh, je suis vraiment content, ça a été une journée difficile. C'est une course vraiment spéciale que je découvre et que je gagne, donc c'est que du bonheur. C'était un objectif important pour moi dans mon début de saison et je suis content. Ça fait un moment qu'on me parle de cette course, qu'elle est bien pour moi. Je savais que si je voulais venir ici un jour, c'était avec une bonne condition pour essayer de gagner. Voilà, j'ai travaillé dur tout l'hiver. Mon début de saison aussi a été au-delà de ce que je pouvais espérer, donc arriver là en grande condition avec une équipe très forte au départ, c'était parfait pour moi. J'ai pas fait d'erreur aujourd'hui, il fallait pas en faire.
Julien Alaphilippe avec la chaîne L'Équipe, une première médaille française au championnat du monde de biathlon à Östersund en Suède, le bronze pour Quentin Fillon-Maillet sur le sprint. Le titre est allé au grand favori, le Norvégien Johannes Bø, grand rival de Martin Fourcade, le quintuple champion olympique, toujours pas rassuré sur son état de forme, il a fini que 6e malgré un sans faute au tir. Voilà pour les petites brèves. Mondial Sport, première période, se referme. Merci à Hélène Avril pour la réalisation. On se retrouve demain à la même heure. Et histoire de vous mettre l'eau à la bouche, on vous parlera, je vous le signale, du Real Madrid, du FC Barcelone, de rugby et même de Marie-Josée Talou, l'athlète ivoirienne. Tout de suite, c'est 24h en France avec Adrien Delgrange. Très bonne fin de soirée à tous.